Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Lerie, dont Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean Frédérix. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. On retrouve Marc Semo. Bonjour Marc.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de justice et de Syrie. Cette semaine, trois ONG ont déposé plainte pour crimes contre l'humanité devant le parquet fédéral de Karlsruhe en Allemagne, portant sur deux attaques au gaz remontant à août 2013 et avril 2017, imputées au régime de Bachar al-Assad. Le temps est venu pour les procureurs européens compétents d'enquêter conjointement sur le programme d'armes chimiques de la Syrie et d'émettre des mandats d'arrêt contre les responsables syriens. Voilà ce qu'ont déclaré ces organisations dans un communiqué commun. Alors que peut-on attendre de cette démarche juridique? Signe-t-elle le début de la fin de l'impunité pour les responsables des crimes commis en Syrie? Et d'ailleurs, où en sont les procès qui ont déjà commencé à s'ouvrir dans plusieurs pays d'Europe et notamment du côté de l'Allemagne justement? Et dans un tel contexte où les juridictions nationales ont pris le relais, à quoi sert encore la justice internationale? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Françoise Boucher-Saulnier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice juridique de MSF. Vous aviez signé un dictionnaire pratique du droit humanitaire qui va bientôt reparaître. Avec nous également Garance Lequen, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste de la Syrie. Ça fait très longtemps que vous suivez ce dossier. Vous aviez signé il y a quelques années Opération César chez Stock. On s'en souvient. On avait eu l'occasion d'ailleurs d'en parler à ce micro. Avant d'évoquer toutes ces questions, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des Prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Liban. C'est Laure Stéphane. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc journaliste correspondante à Beyrouth depuis quelques années maintenant, 2011, je crois.
Depuis 2011, oui, ouais. Et depuis au Liban depuis plus longtemps que ça.
Et notamment donc pour Le Monde, vous signez également un ouvrage qui vient de paraître libanais, on aura l'occasion peut-être d'en parler. Il faut rappeler évidemment pour les auditeurs, avec ce drame du 4 août dernier, cette double explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, le Liban est dans une crise inédite dont on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à enclencher cette transition. On se souvient que le gouvernement avait été poussé à la démission après la catastrophe, et puis le nouveau Premier ministre, lui aussi chargé de former un gouvernement, a fini par renoncer. On va évidemment parler de tout cela, mais d'abord on va peut-être commencer sur une personne, une figure qu'on retrouve dans votre dernier article qui est consacré à ces Libanais qui, de plus en plus nombreux, décident de quitter le pays faute de perspective. Vous avez notamment rencontré la famille d'un jeune homme de 27 ans qui s'appelle Mohamed, qui a quitté le pays à bord d'une embarcation pour rejoindre Chypre avec une quarantaine d'autres personnes. Sauf qu'aujourd'hui, alors que le bateau a été secouru, lui, il est porté disparu. Ça, c'est le nouveau drame auquel est confronté le Liban, c'est-à-dire ces jeunes qui s'en vont massivement pour aller chercher du travail ailleurs et qui, pour certains, le pays de leur vie.
C'est un nouveau drame qui est en train de, une nouvelle tendance qui est en train de se dessiner. C'est pas encore massif, mais les jeunes, les familles sont de plus en plus nombreuses à tenter cette traversée, notamment depuis la fin du mois d'août. Il y a toujours eu entre le nord du Liban et Chypre des départs parce que c'est pas très loin, mais c'était essentiellement des Syriens ou des Palestiniens qui tentaient ce voyage et les Libanais n'y pensaient pas vraiment. Là, depuis fin août, on est sur une dynamique de départ au point que les autorités chypriotes tirent la sonnette d'alarme, au point que le HCR alerte aussi sur la question, au point également que la Croix-Rouge libanaise, par exemple, met en place une base de données pour pouvoir faire face à cette question, pour pouvoir retrouver les disparus et les morts. Donc eux s'attendent à un phénomène qui va s'amplifier, qui a déjà démarré.
On n'a pas encore l'idée de l'ampleur de ce phénomène. On n'a pas encore de chiffres.
On parle, en tout cas, on peut mesurer entre fin août et le 15 septembre, donc on parle de 15 jours, 3 semaines, on parle de 18 barques qui ont quitté le Liban. Auparavant, c'était une barque peut-être tous les deux mois.
Donc, ce sont clairement des gens qui ont décidé de partir depuis cette catastrophe de août dernier, ou ce sont des gens qui avaient ce projet-là depuis longtemps et qui l'ont finalement, qui essayent de le mener à bout?
Je pense qu'il y a un mélange des deux. C'est sûr que la double explosion du port, elle a donné le sentiment que le pays s'effondrait totalement. On était déjà dans une dynamique de dégringolade auparavant, mais là, voilà, il y a comme l'impression qu'il n'y a vraiment plus de capitaine dans le bateau. Et donc, peut-être des personnes qui réfléchissaient depuis plusieurs mois à partir ont été motivées, se sont dit, voilà, c'est le moment où il faut y aller.
C'est une détermination qui est extrêmement forte. J'évoquais Mohamed, on pourrait aussi parler de Zainab, qui est aussi une figure extrêmement frappante qu'on retrouve dans l'un de vos articles, qui est une jeune trentenaire qui a tenté la traversée, qui a d'ailleurs perdu son bébé de 20 mois. Elle est retournée du coup au Liban parce qu'elle n'a pas pu traverser avec ses trois filles rescapées, qu'elle décide en fait de ne pas scolariser parce qu'elle considère qu'en réalité il n'y a aucun avenir au Liban, donc ça ne sert à rien de les scolariser, et elle est déjà déterminée à repartir malgré le drame qu'elle a vécu.
Elle est déjà déterminée à repartir. Ces questions, c'était: est-ce que vous savez quel pays offre l'asile aujourd'hui à des gens comme nous? Et certainement que si elle aura une autre possibilité de partir clandestinement, il n'y a pas que par la mer qu'on peut partir clandestinement depuis le Liban. On peut également traverser la Syrie. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a des Syriens, des réfugiés syriens, qui ne souhaitent pas retourner en Syrie, mais qui sont prêts à payer un passeur pour traverser toute la Syrie à pied, pour arriver en Turquie, et en pensant depuis la Turquie pouvoir ensuite continuer la route à pied.
Laure Stéphan, où est-ce qu'on en est de cette belle aspiration, de ce beau mouvement de révolte qui avait commencé l'année dernière, avec cette idée qu'il fallait maintenant absolument déconfessionnaliser le paysage politique, qu'il y en avait assez justement de ce système-là? On en a parlé de nombreuses fois ici à ce micro. Est-ce qu'aujourd'hui tout cela est mort et enterré, ou est-ce qu'il en reste encore quelque chose?
Alors, je crois que la colère qui a été exprimée en octobre 2019 et dans les mois qui ont suivi, la colère, elle est toujours aussi vive, elle n'a pas disparu. L'aspiration forte d'une grande partie de la jeunesse à un changement, elle est toujours présente. Mais il n'y a pas d'alternative qui s'est construite, et on a vu que les rassemblements sont devenus de plus en plus petits au fil du temps. Je crois que c'était quelque chose qui était très surprenant. Après la double explosion, il y avait un appel à manifester. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là, des milliers de personnes. C'est déjà bien, mais après l'ampleur de ce qui s'était passé, on aurait pu s'attendre à une mobilisation beaucoup beaucoup plus grande. Donc je crois qu'il y a toujours ces aspirations à changer, mais il y a un phénomène qui se passe, qui est beaucoup plus rapide que tout ça, et qui est la dégringolade économique, qui vraiment emporte les gens, emporte les énergies.
Et pousse vers le repli communautaire. C'est ce que vous expliquez notamment dans un article que vous consacrez à un quartier de Calais. On est à une quinzaine de kilomètres de Beyrouth, et vous dites la solidarité, elle existe toujours, mais à l'intérieur de sa communauté de plus en plus.
Alors ça, oui, c'est un certain nombre de Libanais que j'ai pu rencontrer. Ils disent, voilà, on va se tourner vers notre village, on va se tourner vers notre communauté, parce que on sait comment ça fonctionne, on sait pouvoir compter sur des solidarités, on sait pouvoir être ensemble. Donc il y a cette tendance-là. Et cette tendance, elle est aussi accélérée par le fait que le climat au Liban en ce moment est extrêmement tendu. On sent les divisions, je dirais, c'est un petit peu inhérent à la société libanaise. Mais ces divisions, elles vont et viennent dans la manière dont elles sont exprimées. Et en ce moment, elles sont extrêmement fortes. Donc dans la dynamique du repli communautaire, il y a à la fois cette économie qui s'effondre, le besoin d'avoir un socle sur lequel s'appuyer, et à la fois cette peur de violence dont on a déjà vu quelques manifestations, mais cette peur que cette violence grandisse, et donc on se dit on se met à l'abri.
Et jusqu'où justement va ce repli communautaire dans la population chiite? On sait combien elle a été, pointée du doigt, oui, par en tout cas, par exemple, le président Macron, qui a dit la responsabilité des responsables chiites dans l'incapacité à engager cette transition. Or, en réalité, c'est quelque chose qu'on a ressenti aussi au sein même des populations, pas seulement chez les responsables politiques qui ont crié à l'injustice, qui ont crié à l'ingérence étrangère. C'est aussi quelque chose qu'on a mal pris dans les communautés chiites, et ça participe d'un repli encore plus prononcé.
Je pense que le repli chez les chiites, il est comme dans les autres communautés, pas plus. Mais ce qui est peut-être différent, c'est que eux se sentent un peu, on va dire, amalgamés, toujours autour du Hezbollah. Donc ils sont un peu dans une position d'être sur la défensive. C'est clairement une communauté qu'on sent peut-être plus sur la défensive qu'une autre.
Plus sur la défensive, et aussi, paradoxalement, toujours en soutien de leur leader. C'est ce que vous expliquez dans un de vos articles. Vous dites, oui, on verra plus tard si le Liban a changé, nous verrons, mais pour le moment, on soutient nos leaders.
Alors ça, c'était des Libanais de confession druze qu'il disait, mais quelque part des Libanais de toute confession pourraient le dire. Et oui, au sein de la communauté chiite, enfin tout le monde n'est pas partisan après, hein, mais ceux qui sont partisans sont toujours partisans et ont certainement encore moins de raisons aujourd'hui de cesser de l'être qu'avant, puisque on est dans ce climat de division, de tension. Donc on s'accroche à ce qu'on connaît.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très étonnant. Alors Stéphane, vous avez rencontré un sociologue libanais qui s'appelle Melem Shaoul, et il vous dit qu'il y a carrément une forme de schizophrénie chez les Libanais qui, d'un côté, savent parfaitement que leurs responsables sont corrompus, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de les soutenir. Comment le comprendre ?
C'est un petit peu la manière dont le pays a été fait, non ? C'est une question qu'on pose toujours, c'est est-ce que le Liban est une nation ? Jusqu'ici, il y a une volonté de faire nation, mais le Liban n'est peut-être pas arrivé au point de faire nation. Donc, il y a des sous-États, on va dire, et ces sous-États, ce sont les communautés qui ont toujours existé comme sous-États. De nouveau, c'est toujours une dynamique de détente, tension. Quand il y a une détente, il y a une possibilité beaucoup plus de se détacher de ces appartenances qui sont pas seulement communautaires. Melem Shaoul en parle de ça. Il dit on appartient aussi à une région, on appartient à une famille dans le sens de grande famille, voire dans le sens de clan dans certaines parties du Liban. Et donc voilà, quand on est dans un moment de division, on se retourne vers ces identités et on se retourne vers ces identités aussi parce qu'elles sont très anciennes. Ce sont des identités qui faisait force de loi sous l'Empire ottoman, donc pendant plusieurs centaines d'années. Donc on ne détricote pas comme ça la fabrique d'un ensemble sociétal, on ne le détricote pas comme ça en quelques dizaines d'années, et certainement pas quand, en plus, la politique s'est souvent faite de manière communautaire et non pas avec des partis transcommunautaires.
Et donc même le renouvellement à l'été des élites politiques n'y pourrait rien, parce que c'est toujours un peu les mêmes qu'il y a depuis des années, les Hassan Nasrallah, les Hariri, et j'en oublie, cette poignée-là de leaders communautaires, c'est toujours les mêmes depuis des années. Est-ce qu'un renouvellement pourrait changer la donne ou pas du tout ?
Un renouvellement pourrait changer la donne, mais un renouvellement n'est possible que justement en rassurant, je pense, ceux qui ont peur d'une nouvelle forme d'État, ce qui serait par exemple un État qui serait non communautaire, un État laïque. Pour passer à ça, il faut pouvoir donner quelque part, je pense, des garanties, donner une vision plus claire sur ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, les Libanais en sont persuadés, puisque si on revient à cette idée de schizophrénie, tout le monde au Liban ne veut pas un système non confessionnel. Mais tout le monde au Liban sait que le système confessionnel ne fonctionne plus. Et que le système politique aujourd'hui, avec la classe politique qui est présente, ne fonctionne plus. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on pourrait avoir à la place.
Laure Stéphane, je le disais, vous venez de signer donc cet ouvrage sur intitulé Libanais. On retrouve un certain nombre, justement, c'est un récit polyphonique, il y a plein de très jolies voix. Et il y a notamment le témoignage d'une femme qui s'appelle Carmen Hassoun Abou Jaoudé, qui est une politologue, une activiste qui est née en 1966, donc qui a connu la guerre civile. Et lorsque vous lui demandez si justement la page de cette guerre a été tournée, elle vous dit qu'en réalité, le conflit n'est pas fini. Est-ce que la crise actuelle qu'on vit, jusqu'où est-ce qu'elle s'inscrit justement dans la continuité de cette guerre civile officiellement achevé normalement en 1990.
Alors une des choses qui me paraissent les plus une des choses qui me paraît la plus importante, c'est l'absence de vérité. Et ça, c'est vraiment un héritage de la guerre qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de vérité sur la guerre, puisqu'il y a eu une amnistie après la guerre, puisqu'il y a des mémoires qui sont discordantes, des mémoires qui s'opposent sur ce qui s'est passé. Je sais pas, tel chef politique va être pour les uns un criminel, il va être pour les autres un sauveur. Donc il n'y a pas eu un travail d'histoire. Ça, on le dit assez souvent, mais on peut le redire, il n'y a pas de manuel d'histoire unifié qui existe, qui comprendrait la partie qui s'étend après 43, donc après l'indépendance du Liban, et certainement pas sur la guerre. Et cette absence de vérité, je pense que c'est quelque chose de fondamental, parce que ça permet toutes les manipulations jusqu'à aujourd'hui. Et ça permet à chacun de donner sa version, de jeter le trouble. C'est quelque chose qui est extrêmement problématique pour aller de l'avant. Et par ailleurs, l'autre retour perpétuel à la guerre, c'est l'idée qui est mise en avant par les responsables politiques souvent, que on peut revenir à la guerre, que attention, on peut revenir à la guerre. Alors vous êtes tout le temps en train de vous dire, tiens, j'aimerais changer ça, mais oui, peut-être qu'on va revenir à la guerre, donc je vais attendre, je vais le faire plus tard. Et ce qui s'est passé en octobre 2019, c'était vraiment de la part des jeunes, qui étaient le pilier hein, de cette mobilisation, c'était de dire, non, ça va, nous on n'a pas connu la guerre, on est né après 90 peut-être, et on va arrêter d'être tout le temps dans cette dynamique où vous nous dites on peut retourner à la guerre, on peut retourner à quelque chose de catastrophique si on va changer, on veut changer.
Vous, ça vous semble une possibilité, ce retour à la guerre civile, aujourd'hui ?
Il me semble qu'il est possible qu'on revienne à une période, en tout cas, de troubles, d'affrontements sporadiques ou de repli qui serait un repli avec des territoires gardés par telle ou telle formation ayant des armes, instaurant des barrages, des choses comme ça.
Ce travail sur la vérité, ce travail sur la justice qui n'a pas été fait, vous le disiez, est-ce qu'on en a tiré les leçons, et en particulier sur la catastrophe d'août dernier? Il y a encore beaucoup d'interrogations sur les raisons de la catastrophe. Il y a beaucoup de débats en ce moment au Liban sur la question de savoir s'il y avait ou non un stock d'armes du Hezbollah à côté du port. Est-ce que ce travail-là, il est mené ou pas du tout?
Non, le travail, je crois que l'absence de vérité, c'est vraiment quelque chose qui continue. Il est extrêmement rare qu'on ait accès aux résultats d'enquête, s'il y a des résultats d'enquête. Et aujourd'hui, on est plus de 2 mois après la double explosion. On n'a toujours pas d'éléments d'enquête. On sait, voilà, quelques petites choses qui sont mises en avant, comme le fait que ça aurait été accidentel. Mais on a très peu d'éléments. Et alors, il y a des personnes qui militent, notamment Carmen dont vous parliez, des avocats également qui militent pour que, justement, sur cette double explosion, cette absence de vérité ne passe pas. Mais on n'est pas dans. Je crois qu'il y a vraiment 2 niveaux à chaque fois. Il y a un niveau de la société et un niveau politique, et les deux ne correspondent pas.
Peut-être encore un tout dernier mot, Laure Stéphan, qui va nous permettre aussi de passer vers notre autre sujet, qui est la question de la Syrie. La Syrie a toujours eu un poids extrêmement fort dans la politique du Liban. Il faut rappeler que l'armée syrienne a occupé une partie du Liban pendant très longtemps, jusqu'à 2005, après l'assassinat de Rafik Hariri. Et ce paysage politique, il a toujours été structuré autour justement de cette opposition entre pro-syriens et anti-syriens. L'alliance du 8 mars, l'alliance du 14 mars, c'était déjà ça. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Jusqu'où aujourd'hui ce qu'il se passe en Syrie joue sur la situation libanaise?
Alors déjà par rapport à la classification entre pro et anti-syrien, c'est vrai qu'elle a été en tout cas entre 2005 et 2011, même un petit peu au-delà, mais c'est une classification qui est un petit peu superficielle, parce qu'on retrouve dans les anti-syriens des personnes qui ont pu participer au pouvoir du temps où les Syriens contrôlaient le pays. Donc ça reste quand même quelque chose d'un petit peu superficiel. Je pense que c'est pas vraiment la Syrie qui influence le Liban. Ce qui influence sur le Liban, c'est que les frontières sont fermées. Il y avait quand même beaucoup de passages, notamment de commerce à la frontière. Ce passage n'existe plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, la Syrie n'a plus du tout l'influence qu'elle avait auparavant. Oui.
Peut-être je voudrais faire réagir nos invités, Françoise Boucher-Saulnier, Garance Le Ken, Marc Semo, sur ce témoignage. Garance Le Ken. On parlait de justice sur le Liban, on va en parler sur la Syrie, j'imagine que ça vous parle.
Oui, terme, c'est à la fois passionnant et effrayant, ça peut aussi donner une idée de ce que pourrait devenir la Syrie s'il n'y a pas de travail de mémoire, s'il n'y a pas de travail de justice. C'est vraiment ça, quoi. Le travail de mémoire est essentiel en Syrie.
Françoise Boucher-Saulnier.
Oui, je pense même avant le travail de mémoire et de justice. La justice, c'est un mot très grand. En fait, c'est pas jamais une réalité. Hein. On parle de procédure judiciaire, mais c'est jamais la justice. Donc attention aux mots. Mais je pense que la première chose, c'est l'établissement des faits. Moi, je suis frappée dans le travail que font les humanitaires, que je fais avec Médecins Sans Frontières depuis des années. La dernière des violences, c'est le déni. Et je trouve que c'est vraiment c'est le premier pas vers la reconnaissance de quelque chose, c'est d'abord arrêter le déni. Et on vit à une époque de fake news ou de réalités différentes. Et je pense que le premier élément, c'est d'arrêter le déni et d'arriver à établir les faits. Et on va trop vite sur les responsabilités. Évidemment, la responsabilité, ça fait peur à tout le monde, et notamment aux politiques. Personne ne veut prendre une responsabilité. Se dire que des fois, le monde, il est fou, parce que nous aussi, nous sommes fous, ça devrait pas nous empêcher d'abord de regarder les faits, de voir les niveaux de souffrance, de destruction sociale qu'on génère, et puis ensuite se demander, mais avec ça, on fait quoi? Et on fait pas forcément de la justice, justement. On doit faire de la mémoire, on doit faire des leçons d'expérience, mais là aussi on sait que les responsables politiques, même dans des pays démocratiques, ne cherchent pas forcément en première intention à créer un appareil judiciaire fort et indépendant. Cet appareil judiciaire fort et indépendant, c'est celui qui dérange tout un chacun, parce que c'est celui qui va poser des faits, des responsabilités ou des excuses, mais qui donc va pas rentrer dans un espèce de discours politique qui nous rassure tous, s'il y a des bons, il y a des méchants. La réalité est toujours plus complexe et on est dans un monde d'affrontements idéologiques mais aussi communautaires. On a besoin de boucs émissaires toujours, et même les victimes, on les transforme en boucs émissaires. Je réagis sur la fuite des Libanais qui nous renvoie à ce drame des réfugiés, et finalement on a réussi à être inhumain en Europe, c'est-à-dire à refuser l'accueil en disant que c'était des gens dangereux, mais on voit bien que c'est pas des gens dangereux.
On va regarder justement ce travail de justice qu'on est en train tout juste d'entamer pour ce qui est de la Syrie. En tout cas, merci beaucoup Laure Stéphan d'être passé dans nos studios. Je rappelle qu'on peut évidemment vous lire sur le site du Monde, mais aussi donc depuis quelques jours, je crois que ça vient de sortir, hein,
ce mois-ci. Le 1er octobre,
oui. 1er octobre, Libanais, tout simplement, aux éditions Atelier Henri Dougier, qui est donc un tableau par petites touches, dites-vous, de ce Liban d'aujourd'hui. Merci beaucoup Laure Stéphan.
Merci
beaucoup. لعب الورق خيل السبا صيد الحمام رسم البرود لبس الغوا شم الهوى أكل الهوى شاغل عقول سكان بيروت
Allez, on quitte le Liban, direction la Syrie, procès des crimes syriens en Allemagne, vers la fin de l'impunité, c'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque cette semaine, trois ONG ont annoncé avoir porté plainte auprès du parquet fédéral de Karlsruhe au nom du principe de compétence universelle en vigueur en Allemagne. Cette action concerne deux attaques au gaz. La première avait eu lieu dans la banlieue de Damas le 21 août 2013 et la seconde à Khan Cheikhoun le 4 avril 2017. Écoutez ce qu'en disait Bachar el-Assad à l'époque.
Aucun ordre n'a été donné de déclencher une attaque. Et d'ailleurs, nous ne possédons pas d'armes chimiques car nous avons renoncé à notre arsenal depuis plusieurs années. Et même si nous possédions de telles armes, nous ne les aurions jamais utilisées. Tout au long de notre histoire, nous n'avons jamais utilisé notre arsenal chimique.
Alors, quelles sont justement les preuves qui montrent que Bachar el-Assad a bien utilisé des armes chimiques? Quelles issues pour ces procès qui se tiennent devant les tribunaux allemands? Peut-on espérer qu'enfin la justice passe pour ces crimes syriens alors que la justice internationale, elle, est toujours paralysée? Françoise Boucher-Saulnier est avec nous ce matin, directrice juridique de MSF. Garance Le Ken, journaliste indépendante, spécialiste de la Syrie. Vous aviez signé, je le disais tout à l'heure, Opération César au cœur de la machine de mort syrienne. C'était chez Stock. Notre partenaire du Monde, Marc Sémon, va commencer avec vous comme on le fait chaque semaine. Évidemment, on se réjouit de l'ouverture de ce procès et en même temps, il nous rappelle tristement que l'impunité règne depuis si longtemps et que c'est aussi une faillite de la justice internationale qu'il y a derrière tout ça.
Absolument. Le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, bourreau de son propre peuple, massacré, torturé, bombardé avec des armes chimiques, est une incontestable faillite de la communauté internationale. On avait pu mesurer de l'Afghanistan à la Libye en passant par l'Irak les limites des guerres menées au nom de l'humanitaire. On voit maintenant que le coût de la non-intervention peut être au moins aussi élevé. C'est aussi la fin, espérons provisoire, d'une certaine idée de la justice pénale internationale telle qu'elle était née dans le sillage du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie en 1993, puis sur celui sur le Rwanda. C'était des tribunaux ad hoc, créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec un mandat limité dans l'espace et le temps. Mais ce fut le coup d'envoi qui a abouti en 2002 à l'instauration d'une Cour pénale internationale permanente, dont le traité avait été signé à Rome 4 ans plus tôt. Le problème, c'est que son mandat est très limité. C'est que nombre d'États puissants, à commencer par les États-Unis, la Russie, la Chine, ne l'ont jamais reconnu, donc elle n'a pas pu décoller. Elle n'a même pas pu lancer sur saisine du Conseil de sécurité des poursuites, puisqu'à chaque fois, cela a été bloqué par un veto russe protecteur de Damas. Donc le risque de l'impunité est toujours plus réel, et on ne peut que saluer les initiatives lancées par différents États européens au titre de la compétence universelle, qui fait qu'un État peut poursuivre l'auteur d'un certain nombre de crimes très graves, même s'ils n'ont pas été commis sur son sol, par un de ses ressortissants ou sur l'un de ses ressortissants. Alors tu le disais, 3 ONG ont déposé plainte à Karlsruhe, il y a un procès à Koblenz ouvert depuis quelques mois. Les Pays-Bas ont lancé une procédure qui pourrait aboutir finalement à être face à Damas devant la Cour internationale de justice. Et il ne faut pas oublier la France, qui est très engagée pour juger les crimes djihadistes et qui a créé, en 2012, un pôle spécialisé dans la lutte contre les crimes contre l'humanité qui dépend depuis un an du parquet antiterroriste et qui s'occupe notamment du cas de franco-syriens.
Garance Le Ken, c'est une étape importante là qu'on est en train de vivre. C'est la première fois. Il y a des procès qui sont engagés. Marc le disait, Koblenz, ça a commencé en avril dernier. Là, c'est la première fois sur les attaques chimiques. C'est une étape importante, c'est un début.
Le début a commencé en avril, à Koblenz. Là, on en parle beaucoup parce que ce sont des attaques chimiques, donc c'est important qu'après l'attaque du 21 août 2013 dans la Ruta, près de Damas, la France, les Américains, les Anglais devaient frapper. Finalement, ils n'ont pas frappé le régime, donc il y a eu un recul. Et pour le monde, pour la communauté internationale, entre guillemets, les attaques chimiques, c'est de l'attaque suprême. Bon, c'est très important. Il faut savoir que les attaques chimiques ont fait beaucoup, beaucoup moins de morts que les bombardements contre les civils. Il y a plus de 120 000 disparus en Syrie. Donc, c'est important symboliquement. Mais ça a commencé, le premier procès a commencé en avril à Koblenz contre un ex-colonel des services de renseignement du régime.
Mais pas directement sur les attaques chimiques. Là, c'est sur les attaques chimiques. C'est la première fois.
C'est la première fois pour les attaques chimiques, donc c'est bien, mais il y a beaucoup plus que ça, quoi.
Françoise Boucher-Saulnier, est-ce que vous pensez aussi que c'est un tournant et vous allez nous expliquer pourquoi ça se passe en Allemagne?
Alors, tournant, je pense que c'est une étape nouvelle. Encore une fois, on parle de procédures par rapport à des faits qui ont eu lieu en 2013. Donc là aussi, rassurons-nous sur un point, il faut que le travail judiciaire avance, mais il n'enlève rien à la douleur qui continue à se jouer sur le terrain. Donc je pense que c'est toujours important de mesurer le temps des procédures judiciaires, le temps de la guerre et des solutions politiques. Parce que mettre l'accent uniquement ou trop finalement sur le fait qu'il serait une justice de vaincu pour une fois en disant de toute façon on punira, donc on laisse faire mais un jour on punira, ça c'est quelque chose d'absolument, c'est pas une option au niveau humain, au niveau sociétal, parce qu'on se retrouve avec des sociétés totalement détruites et des individus détruits.
Donc pourquoi ça se passe en Allemagne?
Alors pourquoi ça se passe en Allemagne? Parce que ça, il y a un système qui existe depuis 1949 dans donc le droit humanitaire, le droit de la guerre, qui a prévu le principe de compétence universelle. Et donc en disant, finalement, quand des pays sont en guerre ou se font la guerre, il est bien évident que l'impunité, c'est pas le moment. Et la lutte contre l'impunité, on l'a vu sur le Liban, quand un pays doit refaire la paix, il fait des amnisties. Donc dans les conventions de Genève en 1949, donc après la guerre, après Nuremberg, après tout ça, les États, avec la sagesse qu'ils ont à ce moment-là, se disent la seule solution, si on veut pas non plus trop politiser et se dire qu'il y aura une Cour pénale internationale qui fera tout le travail à notre place sans aucun coup politique, parce que ces procédures ont un coût politique, eh bien on va s'en remettre à la solidarité judiciaire des États qui ne sont pas en guerre, qui sont en paix, qui ont un appareil judiciaire et qui doivent à l'humanité de rechercher et de poursuivre les criminels tout-puissants qui, ailleurs, font régner la mort.
Mais ce principe de compétence universelle, il est intégré dans le droit allemand beaucoup plus tard.
Alors, il est intégré finalement très très progressivement parce que les États oublient, même en droit français, il a été intégré très très tardivement. Et on peut notamment saluer le fait que c'est avec l'arrivée de la Cour pénale internationale que les États ont été obligés de faire deux choses qui sont fondamentales, unifier leur définition, crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide, et l'intégrer en droit interne.
On est d'accord pour l'Allemagne 2002, c'est ça ?
Voilà. Avec un point important pour l'Allemagne, c'est que l'Allemagne n'a pas les critères, par exemple, qu'a la France. Elle a une compétence universelle beaucoup plus large. Dans d'autres pays, on dit qu'il faut que le criminel soit sur le territoire.
Là, c'est pas
utile. Ce qui limite, évidemment.
Marc Sémot, et puis ensuite, on se
l'appelle. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure de l'importance des faits. Il y a eu des millions de données qui ont été collectées. Hein, il y avait même un mécanisme qui a été lancé. Alors, comme le Conseil de sécurité était bloqué par les veto russes, un mécanisme a été lancé par l'Assemblée générale de l'ONU pour justement préparer ces dossiers. Il y a eu des dossiers qui ont été préparés à disposition de tout juge national qui voudrait travailler là-dessus. Alors les pôles européens l'ont sollicité, mais en même temps, ça reste complètement bloqué. Non seulement la CPI, mais aussi le Haut Conseil des droits de l'homme qui avait lancé une commission et finalement qui n'a rien donné. Carla Del Ponte, qui était l'ancienne procureure du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, on a d'ailleurs démissionné avec fracas en 2017. Alors est-ce que c'est pas quand même l'échec vraiment d'une certaine idée de la justice internationale qui durait depuis maintenant 20 ans et qui est aujourd'hui en état de faillite absolue sur ce dossier?
Carence Lequen.
C'est à la fois l'échec de la justice internationale et c'est aussi... le mot n'est pas très bon, mais la réussite des Syriens. Parce que toute cette documentation dont vous parlez, ce sont les Syriens qui l'ont collectée. Les Syriens, au péril de leur vie, dès le début de la révolution en 2011, se sont mis à collecter des documents, à filmer les bombardements.
Et absolument pas le mécanisme international impartial et indépendant. C'est son nom des Nations Unies mis en place en 2016.
Ah non, lui, ce mécanisme, ne fait que recueillir. Il y a énormément d'ONG syriennes et maintenant internationales ou européennes qui aussi récupérer tous ces documents. Donc pourquoi l'Europe ? C'est ça aussi qu'il faut expliquer. C'est qu'évidemment, on ne peut pas avoir de justice en Syrie puisque le pays est toujours en guerre et que Bachar el-Assad est toujours au pouvoir et que c'est le principal criminel. Une grande partie des Syriens ont émigré en Europe. Il y en a plus de 700 000 en Allemagne. C'est ça qui est important aussi. Pourquoi l'Allemagne est en pointe ? Parce qu'il y a plus de 700 000 réfugiés syriens en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? Parce que l'Allemagne a sa propre histoire. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu ce mouvement d'exil des Syriens, parce que le régime a voulu décapiter la révolution. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a emprisonné tous les activistes, les journalistes, les avocats. Certains ont pu être libérés, ils ont fui le pays et ils se retrouvent maintenant en Europe et ce sont eux qui sont à la pointe de cette quête de justice. Et ce sont eux qui aident les avocats européens, ce sont eux qui fournissent des documents au procureur allemand ou à la procureure française. Donc c'est ça qu'il faut rappeler.
D'ailleurs, le colonel jugé à Koblenz a été reconnu par un réfugié en Allemagne.
Été reconnu par un avocat réfugié en Allemagne.
Que vous avez rencontré, vous en avez fait un formidable portrait justement dans le JDD, on va en parler. Françoise Boucher-Saulnier, pardon.
Oui, je pense...
La fin d'une certaine idée de la justice internationale, disait Marc.
Là encore, je suis de nature optimiste, au sens où il n'y a jamais eu, c'est un combat permanent, on le sait, j'ai été magistrat, au niveau la justice, c'est-à-dire les procédures judiciaires équitables qui établissent les faits et qui arrivent jusqu'au bout, c'est un combat permanent de toute démocratie. Donc au niveau international, il y a eu des crimes terribles qui nous ont amenés impunis, qui ont amené les États à bouger sous la pression des opinions publiques. Aujourd'hui, ces mécanismes ne peuvent fonctionner que sous la pression des opinions publiques, montrant que finalement, le coût de l'impunité est supérieur au désagrément de la vérité. Mais la vérité dérange.
Est-ce que vous voulez dire que l'opinion allemande a davantage fait pression que l'opinion d'autres pays et que c'est aussi pour cela que ça se passe en Allemagne ?
Non, je pense pas. Je pense que ça se passe en Allemagne parce qu'en Europe, parce qu'il n'y a pas tant de pays que ça dans lesquels il y a une justice indépendante. Je rappelle qu'il y a aussi des procès très politiques qui font partie d'une forme de prise d'otage un certain nombre de gens dans des pays un peu dictatoriaux qui accusent des humanitaires, qui accusent des chercheurs d'espionnage, de terrorisme. Donc attention, la justice fonctionne partout comme une arme. Mais là, dans certains pays européens notamment, c'est une arme au service de l'état de droit. Et il y a très très peu de pays aujourd'hui au monde qui ont encore cet appareil judiciaire. Voilà pourquoi c'est en Allemagne, avec un principe, et c'est vrai que c'est important de le dire, c'est la population réfugiée qui fonctionne. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, les mécanismes d'octroi de l'asile en Europe, comme l'OFRA en France, finalement dénoncent un certain nombre de gens. Et là, il y a des enquêtes qui se mettent en place sur des gens qui sont reconnus, qui se cachent comme réfugiés et qui sont reconnus. Donc il y a aujourd'hui un état de droit qui fonctionne un peu en Europe encore. Et c'est pour ça qu'on peut avoir ces procès.
Vous allez nous le raconter justement, Garance Lequen, mais encore un tout petit mot, si vous le permettez, Françoise Boucher-Saulnier. Une des spécificités en Allemagne, c'est qu'il existe un bureau spécial chargé des crimes de guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire les moyens qu'il y a derrière, et est-ce que, d'une certaine manière, on a là le bon dispositif, précisément, pour répondre à ce défi?
Alors, je pense que le dispositif, c'est l'élément important aujourd'hui à dire en Europe. On a avec le système Eurojust, avec toutes les questions d'accueil des réfugiés, justement, qui sont des accueils de témoins et de coupables. Hein. On a l'information. J'ai travaillé, moi, au tout début dans la guerre en ex-Yougoslavie. Les gens qui sortaient des camps et qui sont arrivés en Europe ont été les premiers qui ont permis de porter une plainte en France, en 95, sur la base de la compétence universelle pour l'ex-Yougoslavie. Donc, on a un appareil juridique existant en France, sur la base des conventions de Genève, qui a mis beaucoup de temps, et de la compétence universelle, qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Il était plus efficace finalement sur la torture, c'est comme ça que les procès sur Pinochet ont été déclenchés. Mais aujourd'hui, l'Europe comprend que c'est sa seule carte, puisqu'on ne va pas faire la guerre, et que donc cette question d'ordre public international, qui est la vérité, et donc potentiellement aussi la sanction, ça fait partir des choses sur lesquelles l'Europe a un atout. Donc Eurojust est un système qui fonctionne, la coopération aujourd'hui est forte. La France a aussi un parquet antiterroriste qui a regroupé le parquet il y avait un pôle crime de guerre, crime contre l'humanité en France, qui était séparé. Aujourd'hui, ils ont été fusionnés avec les parties antiterroristes.
Depuis un an.
Avec beaucoup de, enfin, des moyens supplémentaires, avec un risque. C'est que quelque part, ce soit la vision antiterroriste qui prenne le pas sur le reste. Hein. Et donc que les moyens, dans les arbitrages politiques qui sont faits, que les moyens évidemment soient donnés d'abord à l'antiterrorisme, parce que là il y a un consensus mondial, tous les États, y compris la Chine, sont d'accord que les terroristes sont terribles. Les crimes contre l'humanité et le génocide, c'était fait pour punir ou pour attraper des crimes d'État. Et là on voit bien que c'est sur les crimes d'État aujourd'hui, que dans l'état du monde actuel, qu'il s'agisse de Poutine, d'Erdogan ou de la Chine, évidemment on a un blocage des États sur leur souveraineté.
Marc, rapide
réaction. Sur ce point, on avait évoqué à un moment la création d'une cour spéciale, qu'on pouvait pas installer au nord de la Syrie comme l'auraient souhaité les Kurdes, mais on avait parlé de l'Irak et de la Jordanie, mais c'était effectivement pour les crimes, y compris celui de génocide, d'ailleurs commis par des gens de Daesh.
Bien sûr.
Garance Lequen, on le disait tout à l'heure, en avril dernier, s'est ouvert aussi donc à Koblenz, en Allemagne, le procès notamment d'un homme qui s'appelle Anwar Raslan. C'est un ancien colonel de l'armée syrienne, officier de renseignement. Il est réfugié en Allemagne depuis 2014 et il se trouve qu'il a été arrêté, cet homme-là. Marc le disait tout à l'heure, il a été reconnu dans la rue, dans un supermarché, par un homme dont vous avez fait le portrait il y a quelque temps dans le JDD, qui est Anwar Al-Bouni. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cet homme, qui est un avocat syrien, lui aussi réfugié en Allemagne, qui il est et le travail qu'il effectue aujourd'hui?
Alors, Anwar El-Bouni est l'un de ces avocats, justement, qui a dû fuir Damas, qui a dû fuir la Syrie, et qui est aujourd'hui basé à Berlin, et qui traque les criminels, qui essaye de collecter des preuves sur la présence de ces criminels en Europe, puisqu'en fait, dans le flot des réfugiés, il y a quand même eu des gens qui travaillaient à un moment pour le régime syrien de Bachar el-Assad. Et il a, quand il est arrivé, je me souviens plus, en 2014, je crois que ça doit être ça, je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé en Allemagne, en fait, en sortant de son foyer, il est tombé sur une personne et son visage lui disait quelque chose. Bon. Et puis, il est retombé sur lui dans un supermarché. Et là, en fait, il l'a reconnu puisque c'était celui qui l'avait arrêté à Damas quelque temps avant. Pour la petite histoire qui est moins connue sur l'arrestation d'Anwar Aslan, c'est qu'en fait, Anwar Aslan a été arrêté. Ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est lui qui s'est présenté auprès de la police allemande. Parce qu'en fait, il a commencé à dire qu'il pensait être suivi, qu'il était menacé. La police allemande ne le connaissait pas. Donc il raconte cette histoire, la police allemande commence à l'interviewer et au fur et à mesure c'était pas encore des interrogatoires mais des discussions, la police allemande s'aperçoit que son récit n'est pas très net. Et là il commence à enquêter et là il croise avec le récit d'Anwar El-Bouni et c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté Anwar Aslan. Mmh. Parce qu'ils n'auraient pas forcément arrêté Anwar Aslan. Mmh. C'est Anwar Aslan qui s'est jeté lui-même dans la gueule du loup, ce qui est assez incroyable. Quoi. Mmh. Et donc son procès, il a été arrêté en février 2019 et son procès a démarré en avril dernier.
Quelles sont les preuves qu'il y a de sa responsabilité? Qu'est-ce qu'il y a là dans le dossier, justement?
Alors, Jusqu'à présent, il était chef de la des investigations de la branche 251 de la sécurité d'État, donc service de renseignement du régime. Les preuves que le parquet fédéral allemand avait étaient une trentaine de témoignages d'anciens détenus qui avaient été torturés sous ses ordres dans la branche 251, qui est une branche qui est quand même basée au centre de Damas. Il faut répéter, les arrestations et les tortures se font au centre de la ville. Et puis, ils avaient aussi à côté ce qu'on appelle le dossier César, qui sont des dizaines de milliers de photos, dont 28 000 photos représentent 6 786 détenus torturés à mort, morts de faim, morts de maladies non soignées. Parmi ces 6 786 détenus, 101 venaient de la branche 251. Donc le parquet fédéral allemand avait au départ des témoignages de survivants, les photos de César. Et il y a eu une accélération dans le procès d'Anwar Aslan en septembre dernier, parce que SCM, qui est une ONG de Mazen Darwish, j'ai oublié ce que veut dire le sigle SCM, mais peut-être que Laure...
C'est le Syrian Center... Laure Stéphane, voilà. Restez avec nous.
Oui, Syrian Center for Media, oui. Voilà. A apporté des documents supplémentaires qui font le lien entre la branche 251, la mort de ces détenus et l'hôpital militaire d'Arasta, au nord de Damas, qui récupérait les corps, qui devait ensuite être photographié et ensuite enterré dans des fosses communes. Donc en fait, Mazen Darwish et son association ont apporté des documents prouvant le lien entre des cadavres et la branche 251, donc des documents papier, quoi. Donc là, on va au-delà même des témoignages et des photos de César.
Françoise Boucher-Saunier, cet homme, il est accusé de 4000 cas de torture et je crois 58... je crois que c'est 58, hein, c'est 58...
Mort.
Qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui?
Est-ce qu'une condamnation lourde, hein. Il n'y a pas de peine de mort devant les tribunaux internationaux ni devant les tribunaux européens, mais oui, il risque une condamnation lourde. L'intérêt de ces procès, c'est aussi que quand un criminel est souvent plus intéressant à interroger pour un juge qu'une victime, parce que en général, dans leur défense, ils disent toujours « oui, mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Et là, on peut passer à l'étape numéro 2 qui est donc « mais quels ordres ?» Ils sont capables de décrire le système dans lequel ils étaient. Donc, l'intérêt...
C'est aussi l'objectif de ces procès.
De toute façon, c'est comme ça que fonctionne toute procédure judiciaire, c'est d'arriver finalement à partir de la mise en accusation de quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne va pas du tout, qui est une infraction, de pouvoir dérouler le fil et mettre en évidence un schéma, des chaînes de commandement, parce que c'est l'enjeu notamment des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, hein, c'est pas des actes isolés, c'est de mettre en évidence un ensemble de schémas, de pouvoir, parce que dans la guerre, les soldats obéissent, et leur défense, c'est « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Et c'est là qu'on peut finalement ouvrir le placard beaucoup plus grand et faire tomber une vérité qui est provoquée elle-même alors par les coupables et qui est souvent beaucoup plus crédible encore que tout le reste.
Justement, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il en sort de ces procès qui ont commencé? Qu'est-ce qu'on comprend de ce pouvoir qui est quand même un peu labyrinthique, extrêmement opaque, difficile à comprendre? Qui détient le pouvoir? Quelle marge de manœuvre pour les autres responsables qui sont mises en accusation? Garance Lequen.
Alors, juste, je voudrais rajouter aussi, dans ce procès, ce qui était très important, c'est le témoignage d'un ancien fossoyeur. Donc, en fait, on a vraiment toute la chaîne, à partir du moment où vous êtes arrêté, jusqu'aux fosses communes, et quelqu'un est venu témoigner en disant, voilà, moi, il a fallu que j'enterre des milliers et des milliers et des milliers de cadavres, et que je les sortais des camions frigorifiques, etc. Ce qu'on en attend, c'est ça? Pardon, j'ai oublié votre question.
La question, c'est qu'est-ce que ça révèle de la structure du pouvoir syrien, en fait?
On est dans une vraie machine, on est dans un vrai système. C'est totalement pensé, c'est totalement organisé. On a tout le déroulé maintenant. C'est ça qui est extrêmement important. Et c'est très important qu'on puisse l'expliquer, qu'on puisse le détailler. Et dans une cour de justice, parce qu'une cour de justice, c'est aussi c'est là que se fait la guerre des récits, quoi. C'est vraiment très important pour les victimes. Il y a des victimes, moi j'ai rencontré des Syriens, des survivants, qui sont devenus fous, mais réellement fous de ne pas être entendus, de ne pas être crus, d'être mal soignés et de ne pas être crus. Et là, alors je ne sais pas si ça va soigner beaucoup de survivants, ces cours de justice ou ces procès, mais c'est extrêmement important.
On peut remonter jusqu'à où la chaîne de commandement jusqu'ici à partir de ce qui est sorti de ce procès de Koblenz?
Alors jusqu'ici, je ne sais pas. En tout cas, on remonte jusqu'à Bachar el-Assad. Puisque le procès de Koblenz, On va voir. Je ne sais pas si eux remontent jusqu'à Bachar el-Assad. Il faudrait qu'ils remontent jusqu'au bureau de la sécurité nationale qui est en dessous de Bachar el-Assad. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les documents qui sont présents aujourd'hui en Europe remontent jusqu'à Bachar el-Assad, mais qui a une immunité en tant que président.
Donc. Encore un mot, parce que vous parliez de guerre des récits. On en a eu une guerre des récits précisément autour de ces fameuses attaques à l'arme chimique dont je parlais. On s'en souvient, avec notamment des médias russes qui expliquaient que tout cela était parfaitement faux, que même c'était en réalité les rebelles syriens qui...
Des médias français aussi, juste comme ça.
Que c'était... Non, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui justement des preuves concrètes, objectives sur ces attaques-là? Parce qu'il va falloir, rassembler, collecter un certain nombre de preuves, Françoise Boucher-Saulnier.
Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que justement, on voit la dimension, finalement, concrète, pratique, humaine, mais aussi administrative, du crime. C'est pas une idée, le crime, et la responsabilité d'État n'est pas une idée. Les colonels sont sous la responsabilité de quelqu'un, les centres de sécurité sont sous la responsabilité. On peut au moins arriver au niveau ministère de l'Intérieur, sachant que les ministres sont des politiques et que des fois, ils disent, en fait, c'est pas nous les techniciens, donc on tombe après dans la hiérarchie opérationnelle et pas politique. C'est là, des fois, il y a une difficulté à monter ce cran. Mais aujourd'hui, les jurisprudences internationales ont mis en évidence un point très important sur la responsabilité des commandants, qui est dit la définition même d'un commandant, c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas savoir. Et surtout quand on l'a alerté. Donc c'est quelqu'un qui, s'il n'a rien fait pour enquêter, puisque son rôle c'est de contrôler, s'il n'a rien fait pour contrôler et sanctionner, alors il est coupable et complice. Voilà. Donc si je reviens juste sur les questions, les attaques aux armes chimiques, pour Médecins Sans Frontières, parce que je suis sur ce plateau aussi, parce que nous on est un acteur de terrain, on n'est pas un témoin judiciaire, mais on est un témoin humanitaire. On voit le crime, on ne sait pas exactement à qui on va l'imputer, mais on voit les victimes notamment, donc on voit les conséquences. Et sur 2013, l'attaque sur la Ghouta, et sur 2017, l'attaque sur Idlib, nous avons pris en charge des personnes victimes, médicalement victimes de ces attaques. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut nous faire un diagnostic, enfin un premier point qui est un diagnostic clinique des personnes qu'on a vues. Alors, ce diagnostic clinique, encore une fois, on ne fait pas les prélèvements sur place, on n'a pas les éléments, mais ce diagnostic clinique permet de dire ce sont des victimes d'un agent neurotoxique, de telle famille, parce qu'on est aussi obligé, nous, d'être équipés sur les terrains avec des antidotes pour nos personnels, des combinaisons spécifiques pour les armes chimiques. Sur la Syrie et sur l'Irak, ça fait partie des deux terrains sur lesquels nos équipes étaient avait besoin d'avoir ces équipements de protection chimique, donc on était bien en train d'être confronté à ça, et on est capable donc de faire ce diagnostic.
Mais sur la question, il manque une pièce centrale, qui est d'où vient l'attaque.
Alors derrière, les choses sont relativement simples. On peut dire que c'est une attaque, parce qu'on a eu la même chose sur les attaques d'hôpitaux. On peut dire que c'est une attaque aérienne, parce qu'on sait très bien à quel endroit et à quel moment 350 personnes ou 1200 patients arrivent en 2 heures. Tout le monde sait, on a les images en général voilà, personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a eu une attaque sur le port de une explosion sur le port de Beyrouth, parce que tout le monde a les photos. Et donc il y a un travail qui s'est mis en place aussi pour authentifier de manière avec une espèce d'expertise à la fois médico-légale et balistique tout un tas d'ensemble. La seule chose qu'on peut pas exactement dire, c'est qui était l'avion. Maintenant, un hélicoptère, il y a des gens qui sont capables de le dire, et il y a des plans de vol. Et après, il faut remonter au plan de vol. J'ai travaillé sur l'ex-Yougoslavie, sur les crimes de guerre. Tout le monde disait, il faut rentrer dans la chaîne militaire, et dès qu'on a les plans de vol, on sait.
On est avec vous, Françoise Boucher-Saulnier, et vous, Garance Lequen, autour de cette question procès des crimes syriens en Allemagne, fin de l'impunité. On parle donc des crimes syriens, mais aussi, plus généralement, de justice internationale. Comme chaque vendredi, on sélectionne un dessin, une caricature, un dessin, avec notre partenaire de Cartooning for Peace. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux!
Assis!
Qui nous est présenté par Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et un dessin ce matin qui nous parle de légitimité toujours remise en cause de la justice internationale et en particulier de la CPI.
Et oui, parce que la Cour pénale internationale a toujours été critiquée depuis sa création en 2002. Eh bien, c'est une archive que je vous propose cette semaine, un dessin réalisé en 2011, au moment de l'inculpation de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, par la CPI. Le dessin a été réalisé à l'époque par Damien Glaise, dit Glaise, un dessinateur franco-burkinabé. Et ce dessin, eh bien, c'est ce qu'on appelle un strip, une mini-BD en quelques cases. Première case, on y voit Gbagbo très en colère. À la CPI, vous n'inculpez que des Africains, accuse-t-il l'air mauvais en direction du juge. Un juge dont le visage est caché par l'épais dossier qu'il est en train de consulter. Gbagbo, lui, a les sourcils froncés. Il pointe son doigt en l'air pour bien montrer son indignation. Seconde case, le juge, enfin la juge en réalité, a relevé la tête et l'on découvre son visage, celui d'une Africaine. Il s'agit de la Gambienne Fatou Bensouda, aujourd'hui procureure générale de la CPI. Elle occupait le poste d'adjointe en 2011. Stupeur de Gbagbo qui ouvre de grands yeux, l'air dépité. Son argumentaire vient de tomber à l'eau. Troisième et dernière case, Gbagbo s'est ressaisi. Le voici qui invective de nouveau. « À la CPI, vous n'inculquez que des hommes », lance-t-il. Voilà, Gbagbo pris en flagrant délit de mauvaise foi, nous dit Glaise dans ce dessin. Une mauvaise foi érigée qui plus est en stratégie de défense. Cela dit, l'idée selon laquelle la justice internationale ne serait pas impartiale et aurait une dent envers les dirigeants africains est une critique qui revient régulièrement. Et de fait, les inculpés dans leur écrasante majorité sont africains. Alors s'agit-il pour autant d'une justice de blanc, entre guillemets, ou néocoloniale, comme l'accuse certains. Rappelons que Gbagbo sera finalement acquitté en 2019 par les juges. Un véritable camouflet à l'époque pour la procureure Fatou Bensouda, qui a d'ailleurs fait appel de cette décision. Alors, à défaut de trancher le débat, observons que les Africains ne sont pas les seuls détracteurs de la CPI. En réaction à l'ouverture d'enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan, les États-Unis, qui d'ailleurs n'ont pas ratifié le traité de la CPI, viennent de prononcer des sanctions économiques contre Fatou Bensouda et l'ont même inscrite sur leur liste noire. On est finalement dans le même registre mais avec d'autres moyens.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon pour ce dessin qu'on retrouve évidemment sur le fil Twitter de Culture Monde, sur la page de Culture Monde. Françoise Boucher-Saulnier, que vous inspire ce dessin? Parce que c'est vrai qu'entre temps il a été précisément inculpé, Gbagbo, et on revient un peu à la critique originelle de Marc Semaux, c'est-à-dire que la justice internationale, tantôt elle est incapable de poursuivre un homme comme Bachar al-Assad, tantôt quand elle en tient un, elle n'est même pas capable de ficeler le dossier pour qu'il soit condamné, Laurent Gbagbo.
Alors, je dirais que tant que la justice est critiquée, elle existe. La justice n'est jamais célébrée, nulle part, même dans nos sociétés dites démocratiques. Donc ça, je pense que c'est toujours un élément, des fois on le dit à Médecins sans frontières, du moment qu'on est critiqué par tout le monde, c'est qu'on est en train de faire notre travail. Avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire rien. La justice n'a pas de force. Elle n'a que le droit. Donc elle est toujours soumise à tout ça. Un autre commentaire là-dessus. Effectivement, la justice pénale internationale, la CPI, j'ai toujours du mal avec ce mot justice qui est beaucoup plus philosophique que concret, et je pense qu'on doit s'attacher à des choses concrètes quand on parle de choses aussi graves. La Cour pénale internationale a inculpé au démarrage que des Africains. Ce qu'on oublie de dire, c'est que toutes ces saisines ont été faites par des chefs d'État africains. Donc ce sont les chefs d'État africains qui ont très peu finalement de moyens militaires d'obtenir finalement la chute de leurs opposants, puisqu'on était dans beaucoup de conflits en Afrique, ils essayaient d'utiliser la justice pour gagner les guerres qu'ils n'arrivaient pas à gagner contre leurs opposants. Donc c'est une saisine par des gouvernements africains contre leurs opposants et contre ces fameux groupes armés non étatiques. Je trouve très important de voir quand la justice, quand les procès sont faits contre des gouvernants plutôt qu'à la demande de gouvernants contre leurs opposants. Ça reste un critère.
J'entends bien, c'est une bonne nouvelle qu'on critique la justice internationale, soit, sauf que s'agissant de Bachar el-Assad, s'agissant d'Omar el-Béchir, elle ne peut rien.
Alors, Omar el-Béchir est tombé pour d'autres raisons, hein, parce que son peuple l'a fait tomber.
Oui, enfin, il pouvait voyager tranquillement sans être transféré à La Haye.
Là-dessus, encore une fois, c'est si on veut être vraiment raisonnable, il faut revenir à la raison qu'avaient développé les États après la Seconde Guerre mondiale. C'était quand même une grande leçon de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Rien n'avait marché. Hein, ni dans la préservation de la paix, ni dans l'arbitrage des conflits. Et là, les États ont dit solidarité judiciaire entre les États qui ont des vrais tribunaux. Et je pense que c'est une illusion, et c'est mettre la justice internationale en échec, que de faire croire qu'elle est toute puissante. En gros, elle serait divine, elle descendrait du ciel comme un cadeau, et nous, on la mangerait la bouche ouverte, ou sinon, on dirait franchement, c'est pas bien ce qui se passe là-haut. Non, la justice est une responsabilité citoyenne et de société. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler avant d'être dans le cynisme. Et l'Europe peut faire. On a maintenant des procédures de compétence universelle qui sont enfin rentrées dans les codes pénaux. Je rappelle quand même qu'en France, le code de procédure pénale français n'a toujours pas inclus la possibilité d'utiliser les conventions de Genève pour ça. Donc, voilà. Je rappelle régulièrement au gouvernement qui pense qu'il y a d'autres priorités. Mais je crois que c'est des choses. Nous sommes responsables de nos justices nationales et également de la justice internationale qui aujourd'hui est instrumentalisée par les États parce qu'elle est fabriquée par les États. Alors on est triste de plus être tout puissant et que les Chinois, les Africains, les Russes et les Américains soient aussi puissants. Mais ça, c'est la réalité du monde et c'est à nous d'être crédibles dans ce qu'on fait.
Garance Le Ken, on est triste mais on se rassure parce que les juridictions nationales prennent le relais. S'agissant de la France en particulier.
Oui, alors la France, c'est vraiment l'Allemagne pour moi qui est en pointe, quoi. À cause de cette compétence universelle totale, en France, on a des verrous qui fait qu'on ne peut pas. Il n'y a pas cette compétence universelle totale pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, génocide. Donc, on se rassure, d'accord. Mais
et vous même pensez qu'on pourrait y aller?
En fait, on a des verrous, c'est politique. On ne peut pas. Un réfugié syrien en France ne peut pas porter plainte contre un ex-colonel du régime syrien, parce qu'en fait, il faudrait que cet ex-colonel du régime syrien ait sa résidence principale en France. Donc ça, c'est pas possible. Mais même au niveau national, même s'il y a des avancées, il faut rappeler que
c'est ce qui avait permis le procès de Rifat al-Assad, qui est le
Rifat al-Assad.
Rifat al-Assad, pardon, le frère de Hafez, l'oncle donc de Bachar. C'est parce qu'il était résident français.
Voilà.
Ouais, et sinon, on a aussi ouvert des procédures pour des disparitions. Mais parce que des assassinats de franco-syriens. Parce que là, il y a l'ancrage.
Parce que la victime est française.
Mais en tout cas, c'est une volonté politique.
Qui
manque du côté de Paris, clairement.
Alors, je ne sais pas jusqu'où va la volonté politique ou pas. Je m'interroge régulièrement. C'est vrai que ça a avancé avec l'affaire d'Obeida Dabag. Il y a quand même son frère et son neveu qui sont morts sous la torture dans les centres du régime syrien.
Qui étaient deux franco-syriens.
Deux franco-syriens, dont Mazen Dabag, 25 ans, conseiller pédagogique au lycée français de Damas. La France n'a pas levé le petit doigt pour savoir ce qu'ils étaient devenus. D'accord, la plainte d'Obeida a permis l'émission de trois mandats d'arrêt.
Qui est le frère, qui lui vit en France, il a déposé plainte, après s'être retourné d'abord vers le Quai d'Orsay, et puis vers le président de l'époque qui était François Hollande, il a compris qu'il n'y avait pas grand-chose à en attendre, et donc il a posé une plainte.
Voilà, merci de rappeler les faits.
Non, je vous en prie. On en est où de cette affaire?
Ah bah, il y a eu trois mandats d'arrêt, voilà, c'est maintenant trois mandats d'arrêt, donc le numéro 2 du régime syrien, c'est très bien. Mais la volonté politique va jusqu'où? Obeida Dabag n'a jamais été reçue par une autorité française. Jamais reçu par une autorité française pour la disparition de son frère et de son neveu. Voilà, donc je ne sais pas jusqu'où va la volonté politique française.
C'est assez clair quand on vous entend, elle ne va pas.
Voilà,
va pas très
et
loin.
En même temps, il y a eu les trois mandats d'arrêt, dont le numéro 2 du régime syrien. Et ça, personne en Europe n'a émis un mandat d'arrêt aussi haut dans le régime syrien. Donc c'est important aussi.
Ah, donc ça, Françoise Boucher-Saunier,
oui, je crois que sur ce paradoxe, on peut être très très simple. La France veut garder une compétence, j'allais dire, discrétionnaire et non pas en faire un droit pour les citoyens. Donc il y a cette question d'enquête structurelle. D'ailleurs, pas contre une personne, mais contre une situation qui est le moteur sur lequel marche la justice allemande, qui commence à être utilisée dans la justice française par justement ce parquet antiterroriste qui fait aussi tout le reste, donc qui donne des prérogatives, des fois exorbitantes hein, potentiellement, mais sous le contrôle de l'État seulement. Donc je pense que la France reste sur une idée aujourd'hui d'une justice discrétionnaire soumise à la volonté du parquet, au lieu d'ouvrir cette possibilité à des citoyens. Il y a des possibilités aujourd'hui quand même d'avancer et c'est politiquement que ça doit être fait. استنى الفرقة تلمع وتجمع وتنشز وتجهز قلتها تلاقي جري كأنك واقف على باب الجنة مش محتاج حد في حضنك جاي لوحدك مش همك بالظلم هذا كلام نطلطع كده من الساعة 8:30 داخلة على 11 بص ومسك المايك البص بص هنبدأ باللي شفايفك شق طريقك توت اللص أربع في البيرة نكسة خاطنها بالباك التاتيان سون بتنسى اللي يحبك وتفتكر في مين ينسون وجاز بيتوى جاز مسموم بيبصوا لبعض الامبرو ما كانش تراك ده سوبر ستارز ايش حال ما كانتش الانترو فهمتوا ثانية دنيا فانية وبتعمل لعبهم
مذكور افكارك انت عميق بس انا هرشك واتزنديق بلا خطيئه معاك منجنيق تعرف تنشن تعرف تصيد معاك حجاره لكل الفريق طب ارمي السيجاره واعمل حريق.
Merci beaucoup à tous nos invités. Françoise Boucher-Saunier, je rappelle que vous êtes auteur notamment du dictionnaire pratique du droit humanitaire qui était paru à La Découverte, mais bientôt nouvelle édition. Merci infiniment Garance Lequet d'avoir été avec nous également. Je rappelle que vous êtes auteur, vous, notamment d'Opération César au cœur de la machine de mort syrienne qui était paru chez Stock. Merci beaucoup Marc Semon. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission. Dans un très court instant, c'est La Critique avec Lucille Comeau.